Bonjour Annie Lacroix-Ry, très heureux de cette nouvelle rencontre pour parler de sujets qui sont un petit peu d'actualité, puisque on a parlé beaucoup ces derniers temps d'une alliance franco-allemande renforcée avec ce fameux traité d'Aix-la-Chapelle signé par les deux dirigeants de ces deux pays, en grande pompe d'ailleurs sur les lieux, je crois, de consécration, c'est le sacre de Charlemagne, je crois, qui a eu lieu à Aix-la-Chapelle. Est-ce que je me trompe ?
Oui, c'est ça. Oui, ça doit être ça.
On nage à peine dans le symbole.
Il est vrai que je n'ai pas beaucoup ranimé mes souvenirs médiévaux.
Voilà. Et donc, ce qui m'a amené donc à te rencontrer pour t'interroger un peu sur, je sais que tu travailles, enfin que même tu vas publier, puisqu'il est maintenant chez l'imprimeur, un gros ouvrage sur l'épuration en France, donc après la Deuxième Guerre mondiale, épuration dont on reparlera, mais il y a aussi eu peut-être une tentative d'épuration en Allemagne, la preuve étant que depuis des décennies, on nous montre le tribunal de Nuremberg comme étant la quintessence ou même l'archétype plutôt de la justice internationale qui frappe les responsables d'une catastrophe, qu'elle soit crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide et tout, et qu'au fond, on s'est plié à cette idée qu'après le tribunal de Nuremberg, l'Allemagne était devenue toute propre, qu'il n'y avait rien à dire. Est-ce qu'à partir de là, on peut essayer de reconstituer l'histoire avant ce tribunal et surtout après ?
Oui, ben, je dirais qu'on a d'abord intérêt, évidemment, à aller avant. Moi-même, c'est une question que j'ai beaucoup rencontrée, bien sûr, puisque je travaille sur les élites, notamment les élites françaises, qu'elles sont en contact permanent avec les élites allemandes et de longue date. Et puis qu'il se trouve que j'ai consacré évidemment beaucoup de temps de ma recherche, et depuis très longtemps, grosso modo depuis 1970, et je dirais du point de vue des archives étrangères, depuis la deuxième moitié des années 1970, à essayer d'éclairer ce qui s'était passé d'abord à la Libération, et puis comme la déclassification des archives a marché au rythme du crabe, il a fallu des décennies, plusieurs décennies supplémentaires pour se rendre compte évidemment qu'on ne pouvait pas traiter d'une question des années 45-50 sans savoir ce qui s'était passé auparavant et notamment longtemps auparavant. Mais comme on s'est heurté en France à une politique de libération des archives extrêmement frileuse, timide et tardive, eh bien, pour savoir ce qui s'était passé avant, il a fallu, c'est même extraordinaire, pouvoir travailler dans les années 70 sur les années qui suivaient 1944-45, puis à partir des années 80 et surtout des années 90, parce que dans les années 80 c'était pratiquement impossible, à partir des années 90 avoir une vraie lumière posée sur les fonds de la Deuxième Guerre mondiale, et puis il a fallu encore attendre une décennie supplémentaire, c'est-à-dire grosso modo 1999-2000, pour pouvoir accéder à l'entre-deux-guerres et en particulier aux années 1930. Or, pour comprendre le fonctionnement des élites, pour comprendre la permanence des élites, évidemment, plus on remonte, moins mieux on se porte, sachant que, comme au début de ma carrière, j'ai travaillé sur l'immédiat après-guerre, j'ai été, et que j'ai travaillé sur les fonds du Quai d'Orsay, sur les fonds du ministère des Affaires étrangères, j'ai été évidemment tout de suite frappé d'abord par l'importance de la question allemande dans le cadre des rapports franco-américains, parce que j'ai perçu à quel point l'Allemagne était la question centrale pour les États-Unis de leur présence en Europe. Et puis, je me suis rendu compte dès ce moment-là que la question essentielle qui était posée, c'était celle de la permanence du Reich. Puisque les événements militaires, la victoire soviétique, les circonstances donc de la victoire militaire de 1945 avaient fait que l'Allemagne se trouvait divisée en deux, et qu'une partie considérable de cette Allemagne se trouvait sous gestion américaine, d'abord sous gestion théorique des zones occidentales, et puis très vite sous gestion américaine effective, parce que les États-Unis étaient devenus une puissance tellement monstrueuse, tellement considérable, qu'on percevait dans les archives de 1945 que les États-Unis allaient entièrement dicter sur l'Allemagne. Disons, à partir de 1945, c'est d'abord se rendre compte qu'en Allemagne occidentale, rien ne change. Et que les États-Unis se retrouvent en Allemagne, d'abord, je le disais, sans revenir évidemment aux décennies qu'il a fallu pour percevoir tout ça, parce que faut bien se rendre compte de ce que c'est que le travail historique. Le travail historique, ça demande, quand on veut le faire soi-même et puis même être en capacité de suivre ce que les autres ont écrit sur une période, il faut y consacrer beaucoup de temps et quelquefois il faut plusieurs décennies pour découvrir des choses qui apparaissent évidentes mais qui ne l'étaient pas au départ. Parce que théoriquement, 1945, voilà, la puissance américaine, démocratique, et ne songeant qu'à établir la démocratie partout dans le monde, se trouve en situation de gestion directe de vastes zones allemandes. Comme la Grande-Bretagne n'est plus grand-chose, alors que théoriquement, c'est elle qui occupe, je dirais, le cœur industriel de l'Allemagne, hein, puisque elle a le nord et le centre, et qu'en particulier, elle dispose de la Rhénanie-Westphalie, c'est-à-dire de la Ruhr, c'est-à-dire du cœur économique, du cœur politique, du véritable cœur de l'Allemagne. On peut penser que l'Angleterre va jouer un rôle. D'ailleurs, elle joue un rôle qui va dans le même sens que celui des États-Unis, c'est-à-dire, au fond, celui du maintien de relations qui ont été des relations essentielles entre les classes dirigeantes de l'ensemble de ces pays, Angleterre, États-Unis, Allemagne. Alors, en 1945, on perçoit déjà très clairement que tout reste pareil. Moi, je vais revenir à la chronologie parce que si on part des capacités de découverte historique, on va tellement faire le crabe que personne n'y va comprendre rien. Mais on peut dire qu'au bout de décennies d'ouverture des sources, on peut percevoir les choses suivantes. D'abord, que la question allemande est une question non seulement européenne centrale, mais ça tout le monde le sait, mais une question essentielle de la présence américaine en Europe. Parce que, avant la guerre de 1914, les États-Unis ont déjà établi avec l'Allemagne, dont le capitalisme est le plus proche du leur, des relations absolument privilégiées, et que tout projet européen d'installation définitive des États-Unis passe par une installation prioritaire avec leurs partenaires, chez leurs partenaires, à partir de leurs partenaires allemands. C'est ce qui se passe à la fin de la Première Guerre mondiale, très logiquement, parce que les relations capitalistiques sont déjà considérables, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises communes, parce que les États-Unis ne sont entrés en guerre contre l'Allemagne que parce que l'impérialisme allemand, j'allais dire presque aussi impérieux que le leur, avait trop d'ambition et que la crise de 1873-1914 avait terriblement avivé ses ambitions et que, comme le montre très bien Lénine dans l'impérialisme au stade suprême du capitalisme, il y a eu un moment où la crise a créé des concurrences tellement graves qu'elles n'étaient plus gérables pacifiquement et que, comme dit Lénine, on est passé insensiblement de la période pacifique à la période guerrière. Je dis ça parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est une des difficultés de la période actuelle parce qu'il n'y a plus d'analyse de l'impérialisme et par conséquent il manque une dimension essentielle à notre compréhension des phénomènes, de tous les phénomènes, et comme on ne sait plus ce que c'est que l'impérialisme, on a tendance à sous-estimer les caractéristiques essentielles du capitalisme, c'est-à-dire la guerre des capitaux, qui devient parfois une guerre matérielle, une guerre générale avec usage des armes parce qu'on ne peut plus ouvrir les marchés pacifiquement. Et il faut bien comprendre que si les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne dans deux guerres mondiales, c'est parce que ce choc des deux impérialismes essentiels en Europe a été un vrai choc. C'est-à-dire qu'on peut être allié et ennemi en même temps, et il y a des moments, les crises et la durée des crises, qui rend ce conflit non réglable, sauf par les armes. Ça veut dire que c'est pas simplement une fausseté, c'est que l'impérialisme est en situation de guerre ouverte dans les guerres mondiales, et que si les États-Unis sont entrés en guerre, c'est parce que l'impérialisme allemand était le plus menaçant contre eux. Mais menaçant, certes, mais d'abord, ça ne supprimait pas l'extrême concurrence avec les autres impérialismes, et notamment l'impérialisme anglais, qui était un impérialisme extrêmement gênant pour les États-Unis, puisqu'il contrôlait une partie essentielle très, très considérable du monde, et que c'était une partie considérable du monde dont les États-Unis ne voulaient pas se priver. C'est ce qu'il faut avoir en tête d'ailleurs, c'est que les États-Unis sont depuis les années 1890 le pays impérialiste le plus puissant du monde, même si les choses sont en train de se modifier, et d'ailleurs sans qu'on s'en aperçoive. Et que ça veut dire que les États-Unis ont une volonté d'expansion qui n'a pas de limite. C'est une donnée très importante aussi, parce que ça permet de comprendre à quel point les compromis passés en fin de guerre sont pour les États-Unis des compromis non satisfaisants, parce qu'un compromis, ça suppose que vous n'obtenez pas satisfaction de tous vos buts de guerre, et par conséquent, si ce sont des buts de guerre qui ne sont pas réalisés, ils sont bien entendu à remettre en lice, voilà, et c'est une des données. Alors, d'un côté, une relation privilégiée. De l'autre côté, une relation tellement dégradée que, finalement, les États-Unis, après des hésitations, hein, dans la Première Guerre mondiale comme dans la Deuxième, oui, étant donné la puissance des milieux, étant donné la puissance des milieux qui sont en contact direct avec les milieux allemands, il y a des tensions très fortes aux États-Unis entre ceux qui pensent que il faut s'engager financièrement du côté de l'entente, parce qu'il faut couper les pattes au dangereux rival allemand, et puis ceux qui sont pas du tout enthousiastes et qui voudraient bien que qui défendent la fameuse thèse de la neutralité, qui permet tranquillement de vendre des armes, mais finalement de ne pas s'engager. Finalement, et vu la gravité des conflits, y compris d'ailleurs dans l'arrière-cour, parce que l'Allemagne menaçait les États-Unis, y compris en Amérique latine, les États-Unis s'engagent. Ils s'engagent, mais ils s'engagent dans des conditions qui sont très claires sur la passation de nouveaux compromis. Donc ils s'engagent officiellement au printemps de 1917, mais leur implication financière dans le conflit est gigantesque, mais pas leur implication militaire. Donc je le dis d'ailleurs pour mémoire, parce que c'est un élément intéressant dans les relations non seulement avec la France ou les impérialismes rivaux, mais avec la Russie, qui a été d'ailleurs autrefois un impérialisme rival des États-Unis. Ils s'engagent sur le plan financier, ils ne s'engagent pas sur le plan militaire, puisque la stratégie périphérique fait que les États-Unis n'ont eu dans aucune guerre générale un rôle militaire déterminant. Ils ont eu un rôle financier et économique absolument déterminant, mais pas un rôle militaire, ni dans une guerre, ni dans l'autre. Je le dis d'ailleurs parce que ça permet d'éclairer un aspect qui apparaît toujours là comme une espèce de marionnette qui saute, là, ou le diable hors de la boîte. Les États-Unis sont toujours dans une situation militaire délicate parce qu'ils n'ont pas d'armée permanente pour la guerre, étant donné que personne ne les a jamais menacés, qu'ils n'utilisent leur guerre, je dirais, leurs armes que contre les faibles, soit les ouvriers, soit les petits états de l'arrière-cour, soit des pays très faibles sur lesquels on peut bombarder, mais dans lesquels on n'a pas à mettre beaucoup de troupes terrestres, etc. Donc ça, c'est une grande caractéristique. L'autre caractéristique étant que la guerre n'abolit pas les relations antérieures. D'abord, on se voit entre soi, entre milieux qui sont habitués à l'entre-soi, américains et allemands et français et anglais, etc. Et puis parce que, bien entendu, on a des projets. Donc le projet des États-Unis, qui est le même pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Deuxième, c'est un projet d'expansion générale des États-Unis, par conséquent d'expansion en Europe. La Première Guerre mondiale les voit victorieux, je répète, pas sur le plan militaire, mais incontestablement victorieux, et avec un programme de libération de l'espace économique total de l'ensemble de l'Europe, dans l'ensemble de l'Europe. Et évidemment, ce qui les amène à organiser leurs relations avec les impérialismes rivaux, français, britanniques, allemands, tandis qu'il faut organiser aussi le combat contre la Russie, qui elle n'est plus un impérialisme rival, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que tout de même, qui, bien que rogné par les lendemains de la Première Guerre mondiale, représente un espace considérable et un espace soustrait au mode de production capitaliste, qui est fâcheux, d'autant plus fâcheux que c'est un espace très riche, voilà, exactement comme les colonies des pays d'Europe occidentale développée et qui contrôle tous les empires coloniaux dont les États-Unis lorgnent les matières premières à bas prix. Tout ça nous amène alors d'abord à un premier projet démocratique, si je puis dire, de l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que théoriquement, voilà, l'Allemagne va devenir une république. Les belligérants les plus fâchés, comme la France, prévoyaient de mettre devant des tribunaux les vilains fauteurs de guerre, comme le Kaiser et ses affreux généraux, von Hindenburg et Ludendorff au premier rang, plus les autres, et puis rien ne se fait. On laisse tranquillement, les États-Unis ne sont pas seuls d'ailleurs, on laisse tranquillement le Kaiser fuir vers les Pays-Bas. Von Hindenburg et Ludendorff font ce qu'ils veulent, qui va les amener à être des soutiens particulièrement précoces d'ailleurs de la solution nazie, l'un officiellement, c'est-à-dire Ludendorff, l'autre plus officieusement, puisque il attend 1932-1933 janvier 1933, pour appeler officiellement Hitler à la chancellerie. C'est quand même lui qui le fait, puis ça fait pelle d'urette que son milieu ait décidé à le faire. Et donc il ne se passe rien au lendemain de la Première Guerre mondiale. Finalement, avec un projet de démocratisation du même type, hein, parce que la campagne contre l'Allemagne a été terrible, entre les atrocités allemandes en Belgique, les mains coupées, les femmes violées, etc. Et vous regardez, et c'est d'ailleurs une historiographie, on ne la connaît pas du tout en France, mais qui a été pas mal développée dans les dernières décennies, qui a consisté, et c'est très très utile, qui a consisté en Allemagne ou dans les pays anglophones, à comparer les lendemains de la Première Guerre mondiale et les lendemains de la Deuxième, et d'ailleurs à comparer aussi la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Dans leur tenue, dans les pratiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose, bon, qui était déjà très actif dans les années 1970, qui a été vraiment utile pour dessiller les historiens sérieux, les historiens qui s'intéressaient vraiment à la question et qui travaillaient sur les sources, sur la question de la pure spécificité de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que finalement, la Deuxième a été obscurcie par cette idée qu'elle aurait été une guerre idéologique, etc. Tout se ressemble beaucoup. Et dans l'après-Première Guerre mondiale et dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, tout se ressemble beaucoup aussi. Il ne se passe rien après la Première Guerre mondiale, puisque la règle, c'est de maintenir les partenaires. C'est logique d'ailleurs. La règle absolue, c'est bien entendu que soit assurée la stabilité de ces partenaires avec lesquels on s'est mal entendu pendant un moment, mais avec lesquels on va repasser accord. Et par conséquent, il y a d'ailleurs un chercheur américain extrêmement intéressant, Charles Mayer, qui a fait une série d'études. Alors d'abord, qui a fait une étude très intéressante sur le premier après-guerre et le statu quo au lendemain du premier après-guerre, et puis après, qui a comparé les deux après-guerre américains, après 18, après 45, et qui s'est aperçu qu'on avait maintenu les mêmes partout. Les mêmes. On s'était toujours servi des mêmes. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison, l'obsession étant au contraire, évidemment, que les périodes de radicalisation, des crises faisant des guerres faisant suite aux crises, puisque dans les deux cas, les guerres générales font suite aux crises générales, il était bien entendu tout à fait au premier plan d'éviter que la radicalisation puisse traduire par des changements brutaux, par des changements profonds. C'est-à-dire, grosso modo, pour parler en bon français, la priorité, c'était de maintenir les choses telles qu'elles étaient, d'autant plus qu'il y a un pays qui avait eu la mauvaise idée de faire une révolution. Bon, et en plus, c'est imbécile de faire une révolution alors qu'il était la propriété privée sur le plan de ses industries, de ses activités modernes, d'à peu près tous les pays représentés dans la gamme impérialiste. Hein. Et ça allait de l'Allemagne à la France, à l'Angleterre, en passant par la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, tout le monde y était, les Anglais, enfin, tout le monde adorait cette Russie qui était une caverne d'Ali Baba et cet imbécile qui non seulement met la main sur ce que le grand capital avait barboté depuis, disons, 1892 et la période de Witte, mais en plus avait l'idée d'établir un système social qui condamne la propriété privée. Bon, donc la priorité de 1917... de 1918, dirons-nous, mais disons-nous quand même de 1917, c'est de faire en sorte que les compromis suivant la guerre soient établis et puis de se débarrasser de l'expérience soviétique doublement condamnable pour avoir mis la main sur ses propres richesses, ce qui n'était pas le cas avant, et puis pour avoir montré qu'éventuellement une société pouvait fonctionner sans mode de production capitaliste. Qu'est-ce qui se passe donc en Allemagne? Bon, ma foi, tout va très bien, les Américains. Je ne vais parler que des Américains, mais il faut savoir évidemment que c'est un modèle, parce qu'il ne faudrait pas penser que d'autres belligérants aient eu des sentiments strictement différents. Mais les États-Unis sont dominant, parce que la véritable période de domination, le début de la domination des États-Unis, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'est la première.
C'est Versailles.
Voilà. Voilà. C'est les conditions d'emprunt de la Première Guerre mondiale et évidemment les suites. Même si les États-Unis se gardent bien de ratifier, c'est bien logique, le traité de Versailles qui est supposé servir surtout leurs rivaux français et anglais, ce qui est quand même très fâcheux dans le cadre de la concurrence internationale. Donc, je ne vais pas insister trop sur la Première Guerre mondiale, mais je l'ai signalé quand même parce que, après tout, la deuxième n'a été que la répétition de la première. Hein. Et comme les historiens ont beaucoup travaillé, qui ont montré que il s'était passé beaucoup de choses dans la première et même avant la première qu'annonçait la deuxième. Les transferts massifs forcés de main-d'œuvre, qui sont après tout le simple acte de naissance du service du travail obligatoire et de la venue forcée de 14 millions de travailleurs étrangers en Allemagne entre 1939 et 1945, 14 millions quand même, des divers pays occupés, bon, ça existe dans la Première Guerre mondiale. Les génocides, c'est vrai, dont les Allemands n'ont pas eu la seule initiative, mais enfin, qu'ils ont quand même bien entamé, avaient été commencés même avant 1914. Je mentionne pour mémoire un génocide qui a fait l'objet d'une magnifique étude d'un historien allemand, le génocide des Héros en Afrique, en Afrique du Sud-Ouest, qui était un des éléments contrôlés par... l'impérialisme allemand, donc des génocides il y en avait, et puis on avait conduit des guerres coloniales qui anticipaient beaucoup sur le traitement des populations martyrs de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin bref, on avait dans la Première Guerre mondiale les prémices de la Deuxième et le non-châtiment des fauteurs de guerre qu'on devait punir beaucoup et finalement qu'on n'a pas puni du tout. Bien, je passe à la Deuxième, dont les ressorts sont les mêmes que ceux de la première, ce qui a été malheureusement contesté pendant longtemps et qui est d'autant plus contesté qu'en France, je le disais, il n'y a plus d'analyse de l'impérialisme et par conséquent plus d'analyse sérieuse des enjeux économiques des guerres, des motifs économiques des guerres et des enjeux de la tenue des guerres, de la conduite des guerres et du lendemain des guerres. On va passer à ce qui explique qu'il n'y a pas eu plus d'épuration au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que de la Première. Alors, qu'est-ce qui se passe si on se situe du seul point de vue des États-Unis, qui ont quand même, il faut bien le dire, avec les Anglais, hein, avec les Anglais, bien que les Anglais soient par leur affaiblissement réduits à un rôle de second, de lieutenant, ils ont fixé le cadre de la non-épuration de l'Allemagne très tôt. Alors je le dis parce que, bon, il se trouve évidemment que je viens de travailler longtemps sur la non-épuration, sur le phénomène de l'épuration qu'il faut appeler non-épuration, mais il faut le dire parce que il se trouve que l'épuration a fait l'objet très tardivement en France d'études. On aura l'occasion de dire d'ailleurs les caractéristiques de ce mode d'études depuis une vingtaine d'années. Mais cette étude de l'épuration a eu aussi pour objet de nous démontrer, et c'est très récent, hein, de nous démontrer que finalement les alliés anglophones, et les États-Unis en tête, avaient donné l'exemple d'une épuration très solide, très sérieuse. Et je pense en particulier à un ouvrage qui a été publié en 2018 de François Rouquet, et de spécialistes de la tonte des femmes en matière d'épuration, puisque l'épuration française serait essentiellement caractérisée par cet affreux martyr de femmes qui n'aurait commis pour tout péché que d'avoir des relations sexuelles avec les Allemands. Les deux, donc, ont fait un ouvrage qui s'appelle « L'épuration, les Français et les Françaises », mais qui consacre un chapitre à l'épuration des alliés qui aurait été une épuration modèle. Mais les pauvres, donc je répète, 2018, hein, je dis ça pour que vous mesuriez la valeur des études antérieures qui en France sont tenues pour zéro et d'autant plus aisément tenues pour zéro qu'elles ne sont jamais traduites. Et que, on le sait bien, un ouvrage en France, ça se lit surtout parce que c'est traduit, ce qui est bien normal après tout. Hein. Sinon, les pays ne procéderaient pas à des traductions des œuvres importantes. Donc, ce chapitre spécifique nous explique, et je vais partir des évidences, que les États-Unis ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ont établi des structures de recherche des criminels de guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs les lecteurs en trouveront dans mon ouvrage, mais créer une institution dont le nom ramassé s'appelait Crocas, mais cette pauvre institution n'a pas été en mesure d'établir même une liste de 60 000 noms. Alors je rappelle pour mémoire qu'il y avait 3 millions d'adhérents du Parti National Socialiste en Allemagne, et pas seulement 3 millions d'adhérents fantômes, comme dit Madame Bénédicte Chénion, pas seulement des adhérents fantômes, comme elle le dit de la milice et des autres associations fascistes françaises, mais qui en général quand même ont été actifs. Et donc, avec ces 60 000 noms, ils ont été bien embêtés, parce que, après avoir fait tous les efforts, ils ne sont pas parvenus, ils n'avaient pas les moyens, je cite,
pas les moyens
de sortir la liste, de sorte que, voilà, quand ils ont eu les moyens, c'est un coup de chance, ils auraient eu les moyens en 1947, mais en 1947, quel malheur, la guerre froide avait éclaté, et par conséquent, évidemment, la menace que faisait peser l'Union soviétique sur le monde occidental exigeait qu'on mit la pédale douce à cette épuration qu'on avait sincèrement voulu conduire, mais qu'on n'avait pas pu conduire. Ah, comme c'est beau, en 2018. Lisez le chapitre, parce que je pense que les auditeurs pensent que j'exagère. Mais non, malheureusement, je n'exagère pas. Alors revenons
au monde. Le fichier de 3 millions de noms disparaît.
Oui, oh ben ça, il faut bien dire d'ailleurs qu'il a largement disparu, parce que le fichier a été entièrement saisi par les troupes américaines.
Ah, voilà.
Il a été envoyé à Washington.
Voilà.
Et c'est beaucoup dit qu'il avait maigri d'ailleurs, parce qu'il aurait pu être conservé et pas utilisé,
oui, oui.
Mais qu'il avait beaucoup maigri. Quoi qu'il en fût. Bien entendu, c'est une explication tout à fait fantaisiste et qui reflète surtout, l'européanisation, américanisation qui a saisi nos historiens français et dont se multiplient aujourd'hui les exemples à la veille d'une échéance électorale européenne, puisqu'on n'a jamais vu de la part des historiens français une espèce de frénésie européo-américaine aussi vive, pourtant elle est vive depuis longtemps, que ces derniers temps. Alors je reviens aux études sérieuses. Les études sérieuses, elles ont été entamées dans les années, alors d'abord je dirais très tôt, parce que on dispose d'études sérieuses, mais on pourrait dire qu'il n'y avait pas toutes les archives, avec un très très important ouvrage d'un ancien du corps américain d'occupation qui s'appelait Martin, qui était un juriste qui avait fait partie des éléments démocratiques, dirons-nous, du corps d'occupation américain de l'AMGOT, des éléments de l'AMGOT, c'est-à-dire de l'American Government in Occupied Territories, du gouvernement américain dans les territoires occupés, c'est-à-dire la caricature parfaite, le type parfait de l'occupation, hein, de l'occupation coloniale d'après-guerre, c'est-à-dire vous avez un vaincu et vaincu est dirigé par le vainqueur, ce qui se fait, c'est le cas bien sûr, d'ailleurs c'est le cas formel de la situation de l'Europe orientale, puisque l'Union soviétique s'installe dans la partie orientale. Et auprès des États-Unis, en fait, le programme d'AMGOT et le programme politique de l'AMGOT, il est élaboré, il faut le savoir, dès 1941. On n'entre pas en guerre sans savoir quel but de guerre on a. Et d'ailleurs, je dois dire que les buts soviétiques sont très simples, puisque Staline les communique en juillet 1941. Nous voulons récupérer tout le territoire que nous occupions au moment de Barbarossa, oui. Le 22 juin 1941, et nous voulons que la Pologne ne soit plus une zone d'invasion de l'Allemagne. Donc les buts de guerre soviétiques sont très simples, ils sont territoriaux. Les buts de guerre américains, ils sont comme les précédents, ils sont liés bien entendu à ce programme d'installation en Europe, et de création, j'allais dire, y afférente, de ce qu'un politiste néerlandais qui s'appelle Kees van der Peil a appelé la formation d'une classe dirigeante atlantique. Hein, on peut s'installer durablement, on peut être dans une zone qui n'est pas la vôtre à l'origine, parce qu'on a des gens dans la place. Bon. Alors, comment ça peut se passer en Allemagne? Ça se passe d'ailleurs de la même manière pour tous les pays considérés, d'autant plus aisément, évidemment, que les États-Unis sont en situation d'amgott. Donc c'est encore plus facile, évidemment, en Allemagne et en Italie, hein, que ça n'est supposé l'être ailleurs. Ça a failli être pareil en France, parce que les États-Unis pensaient réutiliser tout Vichy, et puis il y a eu un petit hic, parce qu'il y a eu une résistance intérieure qui a pu s'appuyer sur une sorte d'anticonformiste qui était De Gaulle, un général très réactionnaire, mais qui ne voulait pas que les États-Unis occupassent le sommet officiel de son pays. En Allemagne, en Italie, c'est facile. Et comment on va faire, et en particulier, comment on va punir, évidemment, un comportement allemand qui apparaît abominable à tous les peuples qui en font les frais, puisque l'Allemagne occupe quand même une partie considérable des territoires européens, et à l'Est et à l'Ouest. Donc, dès l'entrée des États-Unis en guerre, et sachant qu'ils sont supposés avoir aidé l'Angleterre à assurer ses obligations avec le prêt-bail accordé en 1941, puisque l'Angleterre est incapable de mener une guerre qu'elle n'a pas préparée et qu'elle s'est acharnée à esquiver pendant tout l'entre-deux-guerres, comment va-t-on procéder pour punir ces gens à l'égard desquels on a mis si longtemps à se décider à intervenir, hein, parce que quand même, ça durait depuis 1933, et la guerre ne s'engage qu'en 1939, et encore, c'est l'Allemagne qui la déclenche. Donc on discute entre Anglais et Américains de l'épuration. Ça commence en fin 41, début 42, et ça a fait l'objet d'un livre extraordinaire qui n'a jamais été traduit, oui, d'un journaliste et historien anglais qui s'appelle Tom Bauer, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs pour la BBC, et qui a fait un ouvrage dont le sous-titre est « Un engagement trahi, a pledge betrayed », et dont le titre est « Blind Eye to Murder », c'est-à-dire « L'aveuglement devant le meurtre », et qui explique comment de 1941 à 1945 et au-delà, bien sûr, les États-Unis et l'Angleterre se sont acharnés à proscrire toute dénazification. Toute dénazification. Et j'ai évoqué tout à l'heure, à cet égard, quelqu'un dont les hypothèses ont été entièrement confirmées, puisque je l'ai oublié en chemin, celui-là, c'est-à-dire Martin. Martin a fait un ouvrage qui porte un joli nom littéraire qui s'appelle « All Honorable Men », tous des hommes honorables, tiré de la magnifique réplique de Brutus, l'assassin, le fils adoptif et l'assassin de César, mais ce sont tous des hommes honorables que ceux qui ont commis le crime. Et donc ça fait allusion à la réflexion d'un homme politique et financier anglais qui, lors d'une des discussions de 1945, voilà, quand il est question de s'installer et de prendre des mesures d'épuration, dit à propos des grands financiers, mais ce sont tous des hommes honorables, évidemment, c'est les hommes avec lesquels il a négocié avant-guerre, pendant la guerre, tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à négocier. Donc ces hommes honorables, disait Martin, eh ben, ces hommes honorables, puisque les Anglais et les Américains discutaient et que Martin était dans le corps d'occupation, c'était des gens qui ne voulaient pas épurer quoi que ce soit en Allemagne. Alors d'abord, et il le dit très bien, il explique, parce que c'est un bouquin très documenté, il explique que dans le corps d'occupation, anglais comme américain, ne sont installés que des gens qui ont fait des affaires avec l'Allemagne, qui ont fait des affaires conséquentes avec l'Allemagne, qui n'ont d'ailleurs même pas cessé de faire des affaires pendant la guerre. Voilà. Mais ça demandait une discrétion, évidemment, qui rend l'accès difficile tant que les sources ne sont pas libérées, encore que lui, Martine, il est vu tout ça et qu'il se soit rendu compte que la situation était effrayante parce que le corps d'occupation était dirigé sur le plan économique par le chef d'une des banques qui avait officiellement contracté avec l'Allemagne, laissé contracter à l'Allemagne des emprunts jusqu'en 1937, et puis qui n'avait pas du tout rompu les relations après. Donc le livre de Martine, ça montrait qu'il n'y avait eu aucune épuration économique. Et comme c'est, alors je signale, c'est un livre de 1950 hein, qu'on peut se procurer aisément. Hein, donc All Honorable Men, mais il n'est pas traduit malheureusement, et qui a été entièrement confirmé par les sources. Hein. Donc tout ceci pour dire que en 1950, une personne cultivée et intéressée, quand elle était française, cultivée, parce que voilà, il fallait quand même connaître au moins une langue étrangère, était en mesure d'éclairer la chose et de montrer qu'il n'y avait eu aucune épuration économique. Or, il faut se rappeler, ce que cet auteur montrait très bien, que nous n'avions pas simplement des gens qui avaient porté Hitler au pouvoir. Nous avions des gens qui avaient porté, certes, Hitler au pouvoir, et c'était une époque où chacun reconnaissait encore aisément que le projet hitlérien était un projet qui avait été conçu non seulement par le patronat allemand, mais soutenu par le capitalisme international, pour une série de raisons que j'évoque notamment dans l'ouvrage « Le choix de la défaite », mais que ces gens avaient été des criminels de guerre, eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient eu des plans d'expansion qui, évidemment, impliquaient que les pays fussent occupés, qui s'étaient servis pendant toute l'occupation de main-d'œuvre esclave. Tout ça est déjà dans le livre de Martine. Et à partir du livre de Bauer, c'est-à-dire 81, il y a une étude, je dirais presque jour par jour, des méthodes par lesquelles les Anglais et les Américains décident qu'il ne se passera rien.
D'accord.
Voilà. Donc je renvoie. Alors après, il y a une partie finale qui est très bien d'ailleurs, sur les procès bidons, dont le procès de Nuremberg, oui. Voilà, et sur les procès de Nuremberg, parce qu'il y a deux procès de Nuremberg. Il y a le procès qu'on connaît de l'automne 45 d'octobre 45 à novembre 46, mais il y a aussi ce qu'on appelle les procès complémentaires, dont certains procès, le procès des industriels, le procès de ceci, le procès de cela. Il y a des procès annexes, ce qu'on appelle les procès annexes, hein, 12 procès annexes, qui ont jusqu'en 48, hein, et dont évidemment il ne ressort rien, sauf que ça donne lieu évidemment à des instructions qui sont tout à fait éclairantes, de même d'ailleurs que le procès de Nuremberg, car les très nombreux volumes de documents utilisés dans l'instruction du procès de Nuremberg comptent parmi les sources ou ont été confirmées par des sources directes et sont des instruments précieux. Hein. L'épuration n'a pas été faite, c'est comme en France, mais il y a des instructions parfois très sérieuses et évidemment la documentation était accablante, écrasante, hein, y compris d'ailleurs sur ces criminels de guerre industriels, sur ces criminels de guerre financiers, c'est-à-dire qui avaient importé en masse des populations de l'Est, des populations espagnoles, aimablement livrées par les Français, des populations, des Juifs, hein, et qui les avaient pas, pour leur part évidemment, qui n'avaient pas allumé le four, mais qui avaient utilisé dans les commandos de travail, dans les commandos d'extermination par le travail, une main-d'œuvre gratuite. Et il faut savoir d'ailleurs qu'il y a. Alors, il y a le livre de Bauer, et puis il y a eu une série d'ouvrages, je pense en particulier à un ouvrage américain de 2002 sur le rôle de ce capital financier allemand. Je l'évoque d'ailleurs dans mon ouvrage « Industriel et banquier », mais aussi du capitalisme financier américain, car, il faut le savoir, Ford et GM, c'est-à-dire Opel puisque General Motors a racheté Opel à 100% en 1929, ont été, entre autres, je dis bien entre autres, de très gros acteurs sur le marché industriel allemand, et les 3 tonnes du front de l'Est ont été fabriquées par Ford et GM, entendons-nous bien, j'allais dire par tous les ports, y compris bien entendu l'importation de l'engagement, si j'ose dire, l'embauche de main-d'œuvre esclave dans les usines, dans les commandos. C'est-à-dire qu'il faut bien le savoir, il n'y a pas seulement les camps d'extermination d'Auschwitz et d'ailleurs, il y a les usines allemandes, voilà, dans lesquelles en masse arrivent, parmi ces 14 millions de travailleurs, en masse par exemple des travailleurs de l'Est, hein, sans compter les travailleurs de l'Ouest, et notamment nos travailleurs du STO. Voilà, non mais je le dis parce que je parle d'abord des industriels. On a déjà tout avec Bauer, je dirais, si on a lu Martine en 1950 ou plus tard, et si on a lu Bauer, on se dit, mais il n'a jamais été question de faire la moindre épuration. Ah, dira-t-on, mais alors quand même, les criminels de guerre de sang, les SS, dont il faut savoir d'ailleurs, et puis certains, et puis la Wehrmacht, dont il faut savoir qu'ils ont parfois frappé chez les alliés occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques morts quand même, il y a eu des prisonniers de guerre exécutés. On le voit très bien dans le livre de Bauer d'ailleurs, parce qu'il montre bien que le gouverneur militaire de l'époque 45-46, c'est-à-dire le général Clay, qui est par ailleurs un grand, selon l'usage, qui est un juriste qui a fait toute sa carrière dans des grands cabinets financiers, qui travaillait beaucoup avec l'Allemagne, il n'y a pas que les Delos. Clay, longtemps gouverneur de zone américaine et puis en fait de zone occidentale, est au courant que toute une série de criminels de guerre examinés par les procès de Nuremberg ou les procès complémentaires de Nuremberg sont des gens qui ont tué des ressortissants américains et dans des conditions qui ne sont pas les conditions de guerre, qui sont les conditions de crimes de guerre, hein, ou de crimes contre l'humanité. C'est pas grave. Tout ça, c'est déjà dans Bauer. Et puis, il y avait les archives du Quai aussi, qui aidaient. Dès les années 70, elles étaient ouvertes, hein, puisque moi, j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse d'État sur cette base. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Ça m'a permis, d'ailleurs, dans les années 1980, de faire une série d'articles que personne ne connaît, puis ça fait belle lurette qu'ils se baladent dans la nature. En particulier, j'avais fait un article, je crois que c'est au début des années 90, sur la dénazification, si on peut appeler ça comme ça, sur la dénazification en zone américaine. Et sur la base des archives du Quai d'Orsay, on se rend bien compte qu'il ne se passe rien, sur rien. C'est-à-dire que dans la zone américaine, puis on ne savait pas encore ce qui s'était passé pendant la guerre à l'époque. Dans la zone américaine, on se retrouve entre soi. D'ailleurs, exactement comme dans Goodbye Vienna, un film d'un réalisateur, je ne sais plus si américain ou autrichien ou américain d'origine autrichienne, qui est mort il y a quelques années, son nom m'échappe. Mais il y a une scène extraordinaire de départ, mais extraordinaire cette scène. Il y a un grand industriel et financier qui se fait harponner par des éléments du corps d'occupation, par des soldats, un officier américain ou un sous-officier américain, et qui, l'air très sûr de lui, demande à être immédiatement mis en contact avec son partenaire d'affaires, dont j'ai oublié le nom. En fait, c'est von Schnitzler, l'allemand, c'est-à-dire le chef des colorants de Ligue Farben, ouais, qui dit présentez-moi, faites-moi vite venir mon petit copain machin, qui peut être de la Dupont de Nemours, oui, ou de la St. Joel of New Jersey, c'est-à-dire de la famille Rockefeller, Et ça se passe très bien, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je vais donner juste un exemple, parce que jusqu'ici, et ça c'est tiré des archives françaises, parce que jusqu'ici, je n'ai parlé que des industriels qui me semblent toujours le cœur de l'affaire, enfin que des financiers qui me semblent le cœur de l'affaire. Il se trouve que nous, on a, comme tout le monde d'ailleurs, des très bons diplomates qui font leur boulot, c'est-à-dire qui rendent compte de ce qui se passe. Et je vais donner un exemple alors, qui est vraiment typiquement de la zone américaine, c'est-à-dire que c'est avant la création de la bizone où les Américains mettent plus ouvertement la main sur la zone anglaise. Donc on est dans le sud, on est en Bavière, puisqu'ils ont la Bavière. Hein, et alors qu'ils n'ont pas la Rhénanie-Westphalie, et pourtant c'est la Rhénanie-Westphalie qui est le cœur de leur activité, hein. Mais c'est pas grave, là c'est discret, alors qu'en en Bavière ils sont là. Et il y a un de nos excellents consuls qui envoie en juillet 45 une lettre, juillet 45, hein, donc la guerre est finie depuis quelques mois, et qui dit, oh là là, il y a eu une arrestation massive d'industriels de Munich, d'industriels bavarois. Alors évidemment, sur le coup, tout le monde s'est posé la question, puisqu'il leur était rien arrivé, hein, exactement comme chez nous d'ailleurs, il n'était rien arrivé à nos grands industriels. Et tout d'un coup, arrestation de quelques dizaines. Alors, dit notre consul, c'est pas du tout pour leur faire de mal ou parce qu'on a décidé de prendre des positions politiques contre eux, pas du tout. Les Américains veulent avoir des informations sur leur lien avec l'IG Farben, et tout ça c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le Safe Haven Project, le projet port de protection, enfin port de, je trouve plus le nom, le Safe Haven, c'est le port dans lequel on se retranche en cas de tempête. Et donc les États-Unis ont comme un de leurs buts de guerre en Allemagne tordre définitivement le cou à ce qu'ils appellent autarcie. C'est l'autarcie, c'est l'opposition faite à la pénétration de leurs capitaux. Bien que théoriquement l'autarcie, ça vise le protectionnisme, dont ils sont des spécialistes d'ailleurs à l'époque. Et donc, comme ils veulent leur faire avouer des liens avec l'IG Farben qui les intéresse directement, bon, ben, ils les ont coffrés 15 jours et puis ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, ils sont sortis. Bon, ça c'est un exemple d'une épuration qui était claire, hein, ils se font 15 jours de
garde à vue pour
voilà, de mise au placard dans des conditions tout à fait honorables quand même, hein, voilà. Ça c'est pour, et moi je découvre ça avec des archives de 45, mais hallucinantes, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il n'y a aucune dénazification. Bon, mais on n'avait pas encore tout. Et puis alors, voilà, je vous passe le détail. C'était pareil en Angleterre. Hein. C'est-à-dire que la non-dénazification de l'Angleterre était tellement visible et grotesque. Elle a donné lieu d'ailleurs à un ouvrage plutôt favorable, d'ailleurs plutôt très occidental, un ouvrage spécifique dans les années, ça doit dater des années 70 ou 80, qui montrait qu'il n'y avait rien eu non plus. Bon. Et tout ça, alors qu'on ne sait pas tout encore sur ce qui s'est passé pendant la guerre, et sachant que ça ne se passe pas plus mal finalement pour les autres. Par exemple, les postes politiques. Bon, eh ben, ma foi, il faut gérer avec des personnes compétentes.
C'est ça.
Ça, c'est le grand argument avancé. Naturellement, ils sont toujours compétents. Ça, on s'en doute qu'ils sont compétents. Ils ont montré leurs compétences dans des domaines très divers. Alors, ma foi, eh ben, il n'y a aucune raison de tracasser les anciennes autorités administratives et autres, hein, qui sont très compétentes. Ni les enseignants sont très compétents, ni les juges qui sont particulièrement compétents. Donc il ne se passe rien nulle part. Et les Français affolés, voilà. Alors ils sont affolés, mais il faut le dire. Les Français font la même chose chez eux.
Pareil.
Voilà, pareil. Hein, ils réutilisent, puisqu'ils ont un petit, j'allais dire un petit surgeon de l'IG Farben, Ils ont la BASF, la Badische Anilin und Soda Fabrik à Leverkusen, hein, puisque dans leur moignon là, réparti par moitié par les Anglais et les Américains, ils ont un petit quelque chose. Et à Leverkusen, ils gardent tous les criminels de guerre. Alors, je tiens à le dire, parce qu'on a, on a les sources, hein, y compris d'ailleurs par le Quai d'Orsay. Tout le monde sait tout sur tout. C'est-à-dire que les services de renseignement ont été, pendant la guerre, que ce soit le BCRA, les services américains, les services anglais, totalement renseignés sur qui était quoi, hein, sur le Wehr, qui fut sous du nazisme. Tout, tout. Les généraux, le rôle de la Wehrmacht, le rôle des SS, bon, voilà, de l'ensemble des institutions nazies, le rôle des juges, le rôle des magistrats, qui a été gratiné quand même, hein, le rôle des... Tout, ils savaient tout. Il y avait des millions de fiches, bon, que tout le monde avait, que, hein, les 60 000 noms qu'ils n'ont pas trouvés, et ben que mes collègues aillent donc regarder les archives 44-49, et ils verront de quoi ils retournent.
Je fais une citation là, du livre donc le second Anschluss, l'annexion de la RDA de Vladimir Ujaké, oui. Qui dit que au début des
années... que je recommande vivement à la lecture de tous, parce que c'est sur l'Allemagne contemporaine et même un peu plus lointaine une espèce de livre ouvert de compréhension sur les réalités allemandes. Voilà, alors, remarquable.
Au début des années 50, donc, oui. Ce sont 30 à 40% des fonctionnaires des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères qui étaient d'anciens nazis.
Non, mais ils se trompent, hein, c'est bien supérieur à ça.
Voilà. Alors, et le premier gouvernement, le premier gouvernement Adenauer contenait plus d'ex-inscrits au parti nazi que le premier gouvernement d'Hitler. Hans Globke lui-même, oui. Qui, en tant que père des lois raciales, figurait en 1945 au numéro 101 de la liste des principaux criminels de guerre établis par les Alliés.
C'est bien ce que je disais, n'est-ce
pas ? Devint, en 1953, chef de cabinet d'Adenauer et le resta jusqu'en 1963.
Bien sûr.
C'est un exemple.
Mais c'est un exemple significatif. Tout est comme ça.
Mais presque un militant.
Mais de manière caricaturale, on ne peut même pas imaginer à quel degré de caricature on parvient. Je le dis, il suffit, et il suffisait de regarder dans les années 70-80 les archives ouvertes du Quai pour être effrayé. Et moi, j'avais compris... et j'étais pas plus maligne qu'un autre, hein, simplement je passais beaucoup de temps dans les archives. J'avais compris dans les années 70-80 que l'Allemagne n'avait connu aucune dénazification, mais je ne savais pas encore tout. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre? Eh bien, ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est exactement finalement ce qu'a dit Truman de la manière caricaturale qu'on sait, d'ailleurs qui ouvre l'excellent petit bouquin de qu'est-ce que j'en ai fait de Michel Collomb, constitué des 100 pires citations de l'impérialisme américain. Je crois qu'il ouvre son petit bouquin que j'ai quelque part par cette regarde s'il n'est pas là par cette citation remarquable de Truman en juillet 1941 qui est d'ailleurs tout à fait inexacte parce que elle semble établir une balance entre les Allemands et les Américains qui n'est pas honnête. Il est peut-être là-haut, Marion, c'est pas grave. Qui n'est pas honnête parce que le propos est en fait, enfin, ou la pratique est en fait bien plus anti-soviétique qu'elle n'est anti-allemande. Voilà ce qu'il dit. Eh bien, voilà, après l'opération Barbarossa, puisqu'on est en juillet 41 et que les Allemands viennent attaquer l'Union soviétique le 22, non, j'ai dû la laisser là-haut, et que les Allemands viennent d'entrer par la force en Union soviétique, et il dit si voilà, c'est très bien, ils sont en guerre les uns contre les autres, ben, nous allons faire en sorte qu'ils se massacrent mutuellement le plus possible, et puis si l'Allemagne risque de l'emporter, nous allons aider les soviétiques, et inversement. Ça ne s'est même pas passé comme ça en fait, parce qu'ils ont pu aider les soviétiques, mais malgré les légendes, mais ils ont énormément aidé les Allemands. Alors d'abord qu'ils aient pu aider les soviétiques, le très bon livre de Roberts, Jeffrey Roberts, qui a été traduit chez Delga, qui s'appelle « Les guerres de Staline » et qui pourtant veille à qualifier Staline de dictateur à peu près toutes les deux pages.
J'ai compté. Je crois qu'il y a moins de 5 fois.
Ah, bah tu vois, alors.
J'ai fait attention en lisant le livre. Voilà. Parce que je trouvais que justement. Alors, il le critique très bien.
Voilà, mais il l'appelle peut-être pas toujours le dictateur, mais quand même, il rappelle.
Ah oui, sans
arrêt.
Justement.
Voilà, mais je pense qu'il ne se fait même pas l'illusion, lui, parce qu'en plus, il est un de ceux qui disent il y a un gouvernement collégial et il ne prend jamais de décision tout seul. Non, non, il est à beaucoup d'égards honnête, mais je dirais qu'il est occidentalement prudent. Roberts est quand même quelqu'un qui a des tribunes régulières dans l'équivalent du Monde en Irlande, et quand même ça demande des précautions. Mais il montre très honnêtement les choses, c'est-à-dire qu'il dit par exemple que le fameux prêt-bail qui a été octroyé dans les conditions abominables qu'on sait à l'Angleterre, parce que ça a achevé de ruiner l'Angleterre, le pré-bail. Hein. Mais évidemment, c'est passé par des livraisons substantielles des États-Unis à l'Angleterre. Il ne s'est pas déroulé dans les mêmes conditions à l'égard de l'Union soviétique, puisqu'il le reconnaît. Il le dit clairement. L'essentiel du pré-bail qui a représenté, suivant des études sérieuses, pense à une étude d'une revue économique américaine qui doit dater des années 70, qui établissait le montant du prêt-bail à peu près 5% du total de l'appareil économique de guerre américain. Mmh. Et ce que dit très bien Robert, c'est que la quasi-totalité de cette livraison, qui devait être remboursé, bien entendu, comme l'Angleterre, comme par l'Angleterre, n'est-ce pas ? C'est un prêt que la quasi-totalité a été versée après Stalingrad. C'est-à-dire alors que l'affaire était quand même très sûre et qu'il était quand même indispensable de contribuer un petit peu à la victoire militaire, elle exclusivement soviétique.
Donc
voilà. La situation réelle, c'est que à partir, et alors là aussi on voit bien à quel point les sources sont précieuses, l'impression que nous avons, c'est que la guerre change de visage à partir de Stalingrad. Mais la guerre ne change pas de visage à partir de Stalingrad, bien que Stalingrad pose de nouvelles questions. La guerre, elle change de visage à partir de juin-juillet 1941. C'est-à-dire, dans les trois premières semaines de l'attaque Barbarossa, où le Blitzkrieg crève, échoue. Et je l'ai montré d'ailleurs dans Industrie des banquiers de manière encore plus précise dans Les élites, c'est les 9 juillet et 16 juillet 1941, qu'un général belge d'abord, puis un général français ensuite, disent que l'Allemagne est morte. Et ça donne lieu à un texte extraordinaire du général Doyen, que j'ai cité, pas in extenso, mais enfin largement dans ces deux ouvrages. Le général Doyen, c'est-à-dire un personnage essentiel de Vichy, puisque il a remplacé Hunziger à la tête de la délégation française à la commission d'armistice allemande de Wiesbaden. Et il dit que, compte tenu de la manière dont l'URSS se bat, la guerre allemande est perdue. On est le 16 juillet, c'est pas lui qui l'écrit, d'ailleurs c'est Armand Bérard qui est un type diplomate français d'une lucidité absolument extraordinaire et dont je parle souvent. Et donc il dit, nous serons obligés dans les mois suivants, je dis bien dans les mois suivants, de suivre la ligne allemande, évidemment, il ne dit pas allemande, mais la ligne que nous avons choisie, mais il faut nous faire à la réalité. Les États-Unis, je le cite, hein, les États-Unis ont été les vrais vainqueurs de la Première Guerre mondiale, ils seront les vainqueurs plus décisifs encore de la guerre présente, et il faudra pendant des décennies que le monde se plie aux desiderata des Américains. Voilà. Juillet 41. Alors, ça a évidemment des conséquences directes. Mmh. C'est qu'à partir de juillet 41, je dirais que la tactique de Truman devient un élément, ou une partie de la tactique de Truman devient un élément essentiel de l'analyse, des analyses respectives. Bon, il faut régler les comptes avec l'Allemagne, mais il ne faut pas que le vainqueur militaire sorte le vrai vainqueur de cette guerre. C'est-à-dire, comment va-t-on faire pour se débrouiller pour que la victoire militaire de l'Union soviétique soit payée, j'allais dire, d'aussi peu de récompenses que finalement la victoire militaire française de la Première Guerre mondiale.
Oui.
Hein,
bon,
hein, bon.
Même raisonnement.
C'est le même raisonnement. Hein, c'est quand même la France.
Le prix du sang.
Voilà, le prix du sang, c'est la France qui l'a essentiellement payé, et même pendant la Première Guerre mondiale, l'Angleterre, parce qu'elle a morflé. Hein, bon. D'abord, évidemment, la question ne s'était même pas posée, avait été maintenue des relations économiques essentielles. Il y a un ouvrage tout à fait important de quelqu'un qui après a fait de la mauvaise histoire, mais dont je peux garantir la valeur historique, pas traduit non plus, d'un publiciste. Bon, c'est pas parce qu'il a fait du mauvais travail après qu'il faut, balayer son bon travail d'avant, qui a fait un ouvrage qui s'appelle Charles Higham, et qui a fait un ouvrage, si on traduisait, qu'on appellerait par le pacte nazi germano-américain, et qui a montré comment, secteur par secteur, grande banque par grande banque, grandes entreprises industrielles, Ford, ATT, Dupont de Nemours, grandes banques américaines, comment chacun conservait ses relations spécifiques avec l'Allemagne en faisant passer du pétrole clandestin par-ci, par-là, tout ça. Comment les relations se sont maintenues. Et ça, c'est l'économie. Je donne un exemple. Les États-Unis entrent en guerre en décembre 1941, en janvier, à partir de début 1942, et il se trouve que Ham et moi, on a trouvé, pas les mêmes sources, mais exactement les sources concordantes. Il y a des discussions entre la Dupont de Nemours, l'ICI, l'Imperial Chemical Industries, et l'IG Farben, sur ce qu'on ferait à la fin de la guerre. Ils viennent d'entrer en guerre. Hein, donc on se rencontre à Zurich, on se rencontre à Berne, on se rencontre à Genève, on se rencontre, ouais, on se rencontre partout. Et puis j'ai cité ça d'ailleurs dans, j'ai dû citer ça dans Industriel et Banquier, dans Élite aussi, sur ces choses que les Suisses d'ailleurs rapportent avec beaucoup d'hypocrisie, parce qu'un dirigeant suisse calcule de dire. La Suisse a joué le même rôle dans la Première Guerre mondiale que dans la Deuxième, hein, exactement le même, pour favoriser les relations entre les alliés et l'Allemagne. Hein, exactement de la même manière. Alors, il y a le dirigeant suisse qui se donne le luxe de dire « Oh, tout de même, c'est un peu déprimant de voir, alors que la guerre se déploie, des événements si choquants, tu parles. » Évidemment, ça ne gêne pas les dirigeants suisses, je dirais même que ça entretient les affaires. Et donc, évidemment, quand IG Farben, en janvier 1942, dit « Bon, bah, vous me laissez la Russie, et moi je vous laisse le reste », Je dirais que l'Allemagne, Didier Farben et l'Allemagne présument un peu de leur force. Parce que, oui, d'abord, c'est pas vrai, les États-Unis, ils auraient pas laissé tout seuls, les États-Unis ne laissent jamais une part de l'Europe toute seule. Mais, en plus, les Allemands ont beaucoup présumé de leur force, puisque, comme on l'a dit, comme c'était prévu dès juillet 1941, de toute façon, ils n'étaient plus en mesure de gagner la guerre. Et puis, au fur et à mesure que les Anglais et les Américains traînent sur les divers fronts militaires périphériques, puisque je rappelle quand même que en novembre 1942, ils finissent par atterrir, si j'ose dire, ou débarquer en Afrique du Nord, alors là sont posées les premières questions du statu quo. Et je renvoie les lecteurs anglophones à la lecture en ligne des archives américaines publiées, qui s'appellent les Foreign les American Foreign Relations of United States, c'est-à-dire les archives publiées. Je répète, en ligne, hein, vous tapez, vous trouverez les choses. Moi, je les ai beaucoup utilisées, en particulier dans le dernier livre publié, c'est-à-dire Les élites. Et à partir des archives américaines, j'ai montré comment s'étaient organisées les choses. D'abord, comment on sait dès novembre 1942 qu'il n'y aura d'épuration nulle part. Je laisse de côté la non-épuration en France, puisqu'on en parlera dans quelques mois, et je passe à la non-épuration en Allemagne. Compte tenu des projets français, notamment de l'utilisation d'Arlan, évidemment, tout le monde comprend, les Soviétiques les premiers, les Soviétiques, les Anglais, les Français les premiers, enfin bref, tout le monde, que si on utilise Darlan, ben, mon Dieu, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser Göring, Ribbentrop, Hitler et les autres. Hein. Et d'ailleurs, Roosevelt, qui sait très bien faire le vertueux, qui est un vaste menteur parmi les vastes menteurs du monde, puisque sa fonction, je rappelle quand même que Churchill a été le chef de la coalition anti-soviétique dès 1918, mais qui n'a jamais d'ailleurs renoncé véritablement à cette fonction. Et donc Churchill prend des airs absolument indignés, envoie une lettre bien sentie à Roosevelt en disant « Mais non, mais c'est pas possible. Alors, tout le monde a le sentiment que nous allons réinstaller partout des Kisling. » Alors je rappelle pour les auditeurs que Kisling est un homme de la grande bourgeoisie norvégienne, je ne me rappelle plus sa nationalité, qui avait été utilisée de manière directe en Norvège par les Allemands, et que Kisling était devenu le symbole de la collaboration absolue, etc. Donc c'est une jolie formule de Churchill que naturellement il se gardera bien d'appliquer, puisque c'est en Grèce qu'il montrera un an et demi plus tard comment il entend se débarrasser des Kisling, puisque je le rappelle pour mémoire quand même, les Anglais se sont arrangés avec les Allemands en 1944 pour que les Allemands attendent très tranquillement les Anglais et résistent comme des fous aux armées de résistance. Je le dis parce que on va voir que la première opération catégorique sur la non-épuration, elle se déroule dans les premiers mois de 1945 et exactement dans les mêmes conditions en Italie. Alors donc on sait en 42, inutile de dire comment la nouvelle est accueillie à Moscou, on sait en 1942 que la consigne sera qu'on garde les mêmes et qu'on recommence. Puisque c'est exactement ce qui se passe avec Vichy, où tout le monde sera maintenu en poste. Tous les postes administratifs, tous les postes militaires, tout. Et même qu'on ne va pas aller s'embêter à relâcher les prisonniers politiques communistes, ni à libérer les juifs persécutés par Vichy et sans pression allemande, puisque les Allemands n'y sont pas. que tout ça gênerait les combats, tu parles. Enfin bref, donc en 42, on sait officiellement qu'il n'y aura pas d'épuration. Parce que s'il n'y en a pas avec la France de Vichy, il n'y en aura pas, ni pour les Kisling, ni pour le régime hitlérien, ni pour l'Italie. Je n'ai pas raconté l'histoire de l'Italie, mais c'est exactement la même chose. Hein, bon. Et par conséquent, nous sommes fin 42. Ben, fin 42, les négociations ont quand même commencé. Et quelle est la clé de la négociation? C'est l'envoi par Roosevelt d'un financier dont je n'ai pas parlé, mais que j'ai évoqué ici quand même, dont j'ai un peu parlé. J'ai dit tout à l'heure, quand je parlais d'un des banquiers envoyés en Allemagne, c'était un peu comme les Delos, hein, ce représentant d'une grande banque prêteuse. Alors, Delos, c'est un des partenaires d'une entreprise qui s'appelle Delos Sullivan and Cromwell, ou Sullivan and Cromwell initialement, c'est-à-dire d'un cabinet d'avocats d'affaires qui a un magnifique building qui lui d'ailleurs n'a pas été détruit à New York et qui est une entreprise, un cabinet d'affaires dont l'essentiel des affaires européennes se fait avec l'Allemagne. Et donc toutes les activités de l'entre-deux-guerres ont été tournées autour de l'Allemagne, puisque le frère aîné de la paire, qui est un important partenaire de Sullivan & Cromwell, John Foster Dulles, est quelqu'un qui a été représentant des Américains dans la commission préparatoire au traité de Versailles, à la conférence de Paris, et qui représentait les porteurs de parts américains. C'est toujours le même Foster Dulles qui a été le représentant des porteurs de parts américains dans les négociations avec l'Allemagne, et notamment au moment de la prise de la venue au pouvoir, j'appelle ça une venue au pouvoir plus qu'une prise de pouvoir, de la venue au pouvoir des Hitlériens, puisqu'il fallait négocier le maintien et le respect des accords privés passés avec les banques étrangères. Et c'est le même Foster Dulles qui a un petit frère qui s'appelle Olin Dulles, qui est aussi avocat d'affaires, partenaire dans la société, et que Roosevelt a mis, comme d'ailleurs tous les chefs de l'OSS, qui est donc un avocat d'affaires, et qui, comme tous les avocats d'affaires choisis par toute une série d'avocats d'affaires choisis par Roosevelt, ont été mis à la tête de l'OSS, qui a été constituée à l'été 1941. Faut pas croire qu'il n'y avait pas de service secret américain avant, hein. Mais l'Office of Strategic Services, le Bureau des services stratégiques, ancêtre, comme on le sait, de la CIA, hein, est mis en place à l'été 1941, et l'année 1942 marquant l'entrée des Américains directement ou presque sur la scène européenne, hein, puisque je dirais que l'Afrique du Nord est ce que les Américains appellent le stepping stone, une pierre, les pierres là, sur lesquelles on saute, hein, pour faire des bases, hein, voilà, on sautille, voilà, voilà. Étant donné qu'avec la stepping stone algéro-marocaine, ils sont à quelques jets de pierre de la France métropolitaine, on est à cette étape, évidemment, dans la conjoncture de la réfection de l'Allemagne. Donc, ce dirigeant de l'OSS, car Olin Dulles est un dirigeant de l'OSS, est envoyé par Roosevelt en novembre 1942 à Berne. Paradis des relations clandestines de guerre dans cette Deuxième Guerre mondiale comme dans la Première. Je l'ai étudié d'ailleurs comme un collègue suisse. Je l'ai étudié et j'en ai rendu compte dans mon ouvrage « Le Vatican, l'Europe et le Reich ». C'est dire à quel point les deux guerres se ressemblent. Et donc, il s'en va à Berne. Et qu'est-ce qu'il fait à Berne? Il se balade en permanence avec des nazis. Mais des nazis-nazis, pas des nazifiés-nazifiés. Grosso modo, une gamme qui va du Zentrum nazi-nazifié. Il faut se rappeler que le parti d'Adenauer, le parti dont Adenauer est un chef, hein, Adenauer qui n'est pas un poussin du jour, déjà, puisqu'il sera nommé chancelier à 75 ans.
Qui est la démocratie chrétienne.
Qui est la démocratie chrétienne et qui s'appelle le parti catholique, le Zentrum, depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, avec des hommes du Zentrum et avec des nazis, en particulier un type qui était consul nazi à Genève, à la Société des Nations depuis 1926, donc pas un poulet du jour non plus, en 26, hein. Donc il était au parti nazi depuis 26, et nommé à partir de 33, voilà, voilà. Donc il se balade partout avec son petit instrument nazi. Quand c'est pas des nazis officiels, c'est des nazis officieux. Et il négocie, y compris d'ailleurs avec les représentants de la SS, puisque parmi les principaux négociateurs de l'OSS en 43-44, il y a Schellenberg qui est un personnage essentiel de la SS et des services de renseignement, de ce que nous on appelle la Gestapo, mais qui est le il faut savoir qu'une des dimensions de la SS, c'est d'être un service de renseignement, c'est pas seulement un service de torture, hein. Et donc Schellenberg, qui est le second personnage de ce service, lui envoie régulièrement des négociateurs à Berne pour discuter de l'avenir. On imagine dans ces conditions comment s'est préparé l'avenir de l'Allemagne. Alors l'avenir de l'Allemagne, il se prépare de 43 à 44 dans des conditions qui aboutissent début 45 à la situation suivante. Mais ça a joué sur toute la période 43-44. Sur le plan politique et compte tenu des perspectives qui sont confirmées en 45, il ne se passera rien en Allemagne, à la différence de 18, où il y a eu une réaction populaire et où on a pu penser qu'il allait même y avoir une révolution qui a viré le Kaiser. Certes, sur la base, puisque la pression populaire le fait abdiquer le 3 novembre 1918. Hein ? Les occupants ne sont pas encore là. Rien ne se dessine de ce point de vue dans la Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, il ne se passera rien et la solution politique qui est élaborée, je l'ai étudiée là aussi dans des articles, ce sera le Zentrum plus sous les nazis, mais de gens qui ont souvent bien sûr adhéré aux nazis quand ils n'ont pas adhéré au parti nazi officiellement, comme Adenauer. Adenauer, il s'est fait servir sa retraite, il a été honoré par les Allemands. On a lu une lettre ahurissante à Göring disant mais pourquoi vous m'avez mis, parce qu'ils l'ont mis un peu au placard. Il faut dire que les nazis ont mis quelques Zentrum au placard, comme je l'ai montré d'ailleurs dans le Vatican, l'Europe et le Reich, tout simplement parce qu'il fallait qu'ils cassent leurs gars, hein. Donc il y en a qu'ils ont mis en retraite, bon, il y en a même qu'ils ont tué avec la nuit des longs couteaux. Ils en ont profité pour éliminer quelques-uns qui étaient bien d'accord avec eux mais qui étaient en surnombre. Hein, faut bien se débarrasser des branches mortes. Bon, les faire mourir quand elles gênent. Bon, et donc là, en l'occurrence, Adenauer a mené une vie très tranquille. Il était déjà vieux, hein. Il avait dépassé largement, il atteignait 70 ans, il avait plus de 60 ans. Ils l'ont mis à la retraite, mais ils lui ont servi sa retraite entière. Quand ils ont quelquefois fait des critiques, il avait adressé une lettre à Göring dans laquelle il dit « Mais écoutez, vous vous rendez compte, vous savez très bien que je suis de ceux qui, au Zentrum, ont défendu la solution 1933 pendant des années. » Non, mais je le dis parce que le Adenauer résistant et moi d'Antelière. Bon. Et donc, voilà. Mais ceux avec lesquels se promènent couramment Hollandelos, c'est même pas le plus souvent des Zentrum nazifiés, c'est des nazis. Hein. C'est-à-dire que solution politique, le Zentrum, les évêques, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai tant parlé dans le Vatican, le Repelleraille, hein, parce que les évêques seraient les maîtres à penser, les guides spirituels de la nouvelle Allemagne américaine. Et comme ça n'était pas possible sur le terrain syndical, étant donné la faiblesse relative du catholicisme sur le terrain syndical, qui était la chose du SPD, du Parti social-démocrate, eh bien, on fera avec les social-démocrates sur le plan syndical. Il s'était érigé dans les années 30 en médecin du capitalisme, comme avait dit le chef syndical Tarnov, et par conséquent, on les reprendrait. Et je l'ai étudié d'ailleurs dans le livre qui s'appelle « Syndicalisme et impérialisme ». J'ai montré comment les choses, de ce point de vue, s'étaient organisées, puisque les Américains ont récupéré, à partir de 1945 officiellement, tous les plus anticommunistes et les plus complaisants à l'égard du nazisme, les plus opposés à la résistance à l'égard du nazisme, qui avaient fait les beaux jours de Weimar au sein de l'ADGB, c'est-à-dire du grand syndicat allemand, car on ne pouvait pas maîtriser la classe ouvrière en Allemagne si on n'avait pas la main sur la SPD.
On a donc les fondements de la co-gestion, de la Mitbestimmung.
Oui, et puis on a surtout les fondements d'une non-épuration totale.
Totale.
Oui. Et donc, il faut savoir que c'est très bien suivi par tous les services. Tout le monde le sait, ce qui fait Deleuze.
Y compris les
Français.
Jean Jardin.
Y compris Jean Jardin, son copain. Hein,
son copain.
Bon. Alors, quand les Américains s'installent, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai montré dans l'article sur la non-dénazification de la zone américaine, eh bien, partout, c'est l'évêque qui les accueille, parce qu'ils sont là souvent, d'ailleurs, avant mai 45, puisqu'ils s'installent ils arrivent à partir de mars 45, hein, et ils avancent, et on sait à quel point ils avancent vite, hein, je rappelle pour mémoire, à partir de janvier 1945, on a 270 divisions allemandes sur le front Est. On a 27 divisions allemandes sur le front occidental, dont 26 sont exclusivement vouées à évacuer les effectifs de la Wehrmacht et de la marine de guerre vers les zones anglophones, de telle sorte que les équipements ne tombent pas aux mains des soviétiques. C'est clair, c'est net, ça a été très bien analysé par un très bon ouvrage de Gabriel Kolko qui s'appelle « The Politics of War » et qui étudie la politique américaine de 1943-1945. Voilà comment se passent en vrai les choses et pourquoi les Anglais et les Américains, mis à part le coup de colère des Allemands pour leur montrer quand même que quand ils voulaient se fâcher un petit peu, ils leur flanquaient une grande peignée, malgré l'opération des Ardennes qui a été d'ailleurs la plus meurtrière pour les Américains de toute la guerre européenne, à partir de, donc ça c'est décembre 44, hein, à partir de janvier 45, ils entrent comme dans du beurre. Et tout se fait comme prévu.
Et il laisse les Soviétiques achever le travail.
Voilà, et donc, voilà. Et il voulait même, en plus, il voulait se payer l'honneur d'aller à Berlin, mais il n'était pas capable de conquérir Berlin, par contre. Mais moi, je n'aime pas les questions historiques. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Tout ça, je dois juste signaler à quel point j'ai toujours été surprise que Staline leur accorda à Berlin des zones d'accueil aimables. Je ne peux pas dire qu'il se soit facilité la chose avec ça. Mais enfin bon, de toute façon, ce qui est fait est fait. Et bien que ce soit curieux, c'est pas les alliés occidentaux qui ont conquis Berlin, c'est clair. Et je rappelle d'ailleurs que le 9 mai Prague ne tombe que le 9 mai, c'est-à-dire que la résistance allemande à l'Est a été effroyable jusqu'au bout. C'est bien simple, dans les deux semaines qui ont présidé à la conquête de Berlin, les soviétiques ont perdu autant de monde que les Américains sur les deux fronts Pacifique et européen, enfin occidental, de décembre 1941 à mai 1945. Alors ça donne... 300 000, j'avais à Paris, c'est une collègue, j'étais beaucoup mise en colère quand j'avais utilisé comme ouvrage de référence et de synthèse la bonne synthèse de Pauwels sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le mythe de la bonne guerre, parce que il avait eu la fantaisie de calculer le nombre de morts par seconde ou par heure, je ne sais plus, américains et soviétiques, et que évidemment entre les 200 je crois que c'est 198 000 en tout, et les 27, parce que maintenant on est à 27-30 millions de soviétiques, évidemment ça faisait des ordres. Bon, là, ma collègue était très pro-occidentale, très anti-russe, très anti-soviétique, n'avait pas aimé du tout. Enfin, tout ça pour dire qu'on sait qu'il ne se passera rien, et par conséquent, comme prévu, il ne se passe rien. Bon, voilà. Alors, me dira-t-on, bah oui, mais quand même, il y a Nuremberg. Ah, mon Dieu. Il ne se passe rien, mais
il faut quand faire même, croire.
Voilà. Non seulement il faut faire croire, mais le vrai motif de Nuremberg, je suis catégorique puisque je l'ai rencontré dans les archives, il y a une série extraordinaire au Quai d'Orsay qui était une série des relations États-Unis-Allemagne, Union soviétique-Allemagne, 45 et années suivantes, 45-49. Et dans l'un des dossiers de la série Union soviétique, celle-là je l'ai sur papier un de ces jours quand même, je la rentrais sur ordinateur, il est énoncé très clairement par les diplomates français que, en fait, le véritable objectif de Nuremberg, sachant que le programme défini, décrit par Tom Bauer avait été entièrement appliqué et qu'il ne se passerait rien ou pas grand chose, le véritable motif de Nuremberg était de mettre en accusation l'Union soviétique pour la période 23 août 1939 22 juin 1941 et de démontrer définitivement qu'il y avait eu alliance sacrilège entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Et alors, on a dans les archives du Quai toutes les étapes de la chose, c'est-à-dire les interrogatoires des Allemands, qui d'ailleurs, il faut bien dire, quand même, ont été honnêtes dans l'ensemble. Et en particulier, le grand traducteur de Schmitt, le grand traducteur des entretiens d'Hitler avec les Russes, avec les Soviétiques, qui explique, mais... Alors, il les confond tous. Hein. Alors lui, il dit, mais pour conclure le pacte germano-soviétique, ils se sont battus. Les soviétiques se sont battus comme des lions. Ils se sont battus pour obtenir n'importe quel méandre et gagner un petit peu de territoire sur la future invasion. L'atmosphère était glacée. Bon, alors c'est mal parti, évidemment, pour la démonstration que l'Union soviétique avait adoré l'Allemagne de 1930. Évidemment, aucun témoignage sur le fait que les soviétiques auraient livré des communistes allemands. Ça, c'est Madame Margaretha Bauer, je ne sais comment, là. Un ouvrage a dit ça, on l'a à toutes les sources. Mais finalement, les Américains ont renoncé. Ils étaient soumis à la pression des Soviétiques, ils étaient soumis à la pression des Polonais, ils étaient soumis à la pression des alliés français et anglais, très hypocrites certes, mais enfin, c'était impossible de ne pas mettre les Allemands en accusation. Donc il y a quand même eu un procès de Nuremberg, qui n'a pas tourné à l'avantage de l'Allemagne. Enfin... qui a quand même tourné à l'avantage de l'essentiel de ses élites. Ouais. Sharpe, l'ancien président de la Reichsbank, et qui avait été ministre, sans portefeuille, nommé encore en 1943. Puis fait l'objet, comme un certain nombre d'entre eux, à partir de 1943-44, à la faveur notamment du fameux attentat contre Hitler, dont on pourrait parler d'ailleurs parce qu'il est entièrement bidon. J'ai montré sur la base d'archives américaines que le fameux complot contre Hitler de juillet 1944, entièrement mitonné de Berne par Deleuze, avec ses petits camarades allemands, n'avait même pas encore l'ombre d'un nom début juillet 1944. Si. Si. Et ses archives publiées et censurées, hein. Je veux dire, il en manque des dossiers. Il n'y avait pas de nom, ils ne trouvaient rien. Donc, ils ont bricolé un machin. C'est une opération entièrement américaine, hein, pour laquelle ils ont trouvé quelques noms, disons juste avant le 20 juillet. Moi, j'ai des dossiers du 9 ou 10 juillet, ils n'ont toujours pas un nom. Personne n'ose se prononcer. Parce que j'ai comparé la chose à l'opération Giraud. Comment toutes les opérations de retournement des fronts ont été préparées depuis 1942 ou 43. Avec l'Allemagne, il n'était même pas encore possible à l'été 44 de trouver des gens qui fassent semblant, des élites qui fassent semblant de se retourner contre Hitler. Donc on imagine, hein ? Voilà la grande résistance allemande. Bon. Alors, le procès, bah, soyons raisonnables tout de même. Bon, c'est vrai, Ribbentrop a été condamné. Alors Ribbentrop, d'ailleurs, il avait raison, il ne croyait pas. Mais c'est peut-être pour embêter les Anglais, parce que Ribbentrop, il savait tout sur le pro-nazisme anglais. Hein. Il avait été ambassadeur à partir de 36. Il avait été nommé ambassadeur à Londres. Il était resté en poste jusqu'à sa nomination de ministre des Affaires étrangères, donc à la faveur des scandales provoqués de 38, là, pour que Ribbentrop puisse revenir tranquillement à Berlin, animer officiellement les services du ministère des Affaires étrangères. Et il connaissait l'aristocratie anglaise comme sa poche. Or, l'aristocratie anglaise, elle était engoncée jusqu'au cou dans la collaboration avec l'Allemagne, puisque toute la clique Chamberlain, Halifax, qui, entre parenthèses d'ailleurs, a été envoyé par Churchill comme ambassadeur à Washington, on nous a expliqué qu'Halifax avait été en quelque sorte mis au placard. Mis au placard en devenant ambassadeur à Washington, c'est-à-dire avec le nouveau maître. Ça, je trouve que quand même, c'est un peu fort de café. Hein. Donc toute la clique Halifax, Chamberlain, qui avait des ramifications très étendues jusqu'au sommet de la cour anglaise. On se rappelle le récent scandale, enfin scandale, c'est-à-dire le pétard mouillé de la jeune future reine Elisabeth tendant le bras alors que c'était une jeune personne et qu'on savait la cour d'Angleterre. Tout à fait acquise, en tout cas en grande partie, à l'hitlérisme. Je rappelle que c'est la vraie raison de l'abdication d'Édouard VIII. Pas parce qu'il avait épousé une divorcée, parce qu'il avait épousé une pro-allemande qui, quand il y avait un conseil de cabinet le matin, avait informé Ribbentrop, l'ambassadeur, avant 14h. Hein. Donc, on est un peu étonné que Ribbentrop ait fait l'objet d'une mesure définitive. Il doit y avoir là-dessus des affaires un peu obscures que je ne connais pas, donc je ne me prononce pas. Mais à part ça, Chartres, qui était, je dirais, un des principaux responsables de la solution hitlérienne, a été acquitté. Von Papen, qui était un des principaux responsables, et je le rappelle, une personnalité éminente du Zentrum, mm-hmm. un petit camarade d'Adenauer,
oui.
le maire de Cologne, si puissant maire de Cologne, et membre, j'ai oublié de le dire, et membre de conseil d'administration de très grosses entreprises. Il suffit de lire, alors je le dis pour les auditeurs qui connaissent l'allemand ou l'anglais, abstenez-vous de lire sur des anglophones ou des allemands la moindre fiche Wikipédia en français, elle est nulle et censurée. Par contre, vous allez regarder, et pourtant c'est censuré aussi, hein, mais vous allez regarder la fiche Wikipédia d'Adenauer en allemand, et vous apercevez que dans les années 20, il était membre d'une série de conseils d'administration de grands groupes de concerns allemands. Il y a de quoi tomber de sa chaise, cet homme politique si autonome, si indépendant. Voilà comment Nuremberg a débouché sur un pétard mouillé. Ça a permis, évidemment, pendant un an, je dirais que ça a permis de donner des éléments dont longtemps, d'ailleurs, on ne s'est pas servi. Parce que qui les connaît, les énormes volumes du procès de Nuremberg, très utiles pourtant aux historiens, ça n'a pas donné lieu à un grand déploiement de recherche. Et puis, il en restait tellement qui n'avaient pas été condamnés. C'est très simple. Moi j'ai des dossiers. En finissant mon livre, ou en ayant fini mon livre, en cherchant une côte il y a quelques semaines, oh, je me dis, nom d'un chien, celui-là, je l'ai oublié. Par exemple, on apprend, courant 46, en plein procès de Nuremberg, que les Américains viennent de décider de ne pas traduire 18 000 SS, dont ils savaient bien entendu qu'ils avaient un très fort palmarès. Et alors j'ai oublié, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Et qui va nous amener d'ailleurs à revenir en arrière. C'est que, bon, après la farce de Nuremberg, il faut être sérieux, et j'ai évoqué tout à l'heure les négociations de second front, parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment toutes ces tractations avec les Allemands avaient pour objet de se retourner contre les Soviétiques dès 43-44, ce qui était un peu délicat quand même, donc il fallait les laisser des réserves pour l'avenir, hein. C'était délicat, mais l'avenir SS Wehrmacht avait été tout à fait fixé dans un épisode qui a été considéré à un moment comme une espèce de caprice de Staline, tout ça, c'est-à-dire l'épisode, une fois de plus mitonné par l'ineffable Hollenthaler, émissaire spécial de Roosevelt, début 45, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'opération Sunrise. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle d'ailleurs, on devrait l'appeler opération Aube ou Sunrise Operation, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelque chose qui ouvre définitivement, clairement sur l'avenir. Voilà, en février 1945, et compte tenu de la situation très délicate des troupes allemandes, y compris d'ailleurs sur le terrain occidental, ça je l'explique dans mon nouveau bouquin, puisque la résistance intérieure a été notamment en France et en Italie si forte. Donc les Allemands sont en situation bien délicate, ne parlons pas de la Grèce, où par bonheur pour les partisans du statu quo, Churchill a pu heureusement prendre le relais des troupes allemandes qui s'étaient activement et efficacement retranchées contre les troupes de la résistance intérieure. Nous voilà rendus fin 44, début 45, dans des tractations ultimes de retournement des fronts. Et là, le retournement des fronts, c'est quoi ? C'est que la conjoncture militaire, fin 44, début 45, et les négociations d'ailleurs, plaident en faveur d'une attribution de Trieste et de sa région aux Yougoslaves. Et donc, à la zone d'influence soviétique, si je puis dire. Or, il y a deux personnalités tout à fait significatives d'ailleurs de la manière allemande de conduire la guerre sur le front occidental depuis 1943, c'est-à-dire à l'oriental. Plus de quartiers, on traite les populations comme on a traité les populations à l'est, et on tue tout le monde, on massacre tout le monde, etc. C'est une donnée très très importante, il faut le savoir d'ailleurs, une donnée importante de la recherche scientifique italienne et allemande, dont nous n'avons aucune idée en France, parce que nous, on nous explique que la résistance intérieure, elle n'a fait que traquer les bons bourgeois parce qu'ils étaient bons bourgeois. Mais dans des pays qui pratiquent l'histoire avec un petit peu plus de sérieux, on a depuis 10 ans, 15 ans, parfois plus, des études sur ce qui s'est passé en matière de relations, si j'ose dire, de rapport résistance intérieure, armée allemande, auxiliaire des armées allemandes. Et qu'est-ce qui se passe en Italie? Il se passe que la résistance italienne est forte, que les Allemands sont en situation délicate et qu'il serait bien quand même qu'ils mettent le paquet pour résister et empêcher la zone de Trieste, Trieste et l'Istrie de tomber, une grosse partie de l'Istrie, de tomber dans l'escarcelle yougoslavo-soviétique, si je puis dire. Ce qui se fait. Et ce qui se fait grâce à des tractations qui sont conduites directement par Dulles d'un côté, le chef de la Wehrmacht, Kesselring, puis est le chef de l'ASS, qui a été un des chefs de la Wehrmacht sur le front italien, Kesselring, c'est-à-dire responsable du front occidental d'Italie. Sur le front italien même, Karl Wolff, un des chefs de l'ASS, second de Himmler, responsable au bas mot de 300 000 morts juives, sans compter les autres morts, responsable notamment avant les camps de concentration, gazier des camions au gaz qui ont précédé les chambres à gaz d'Auschwitz et autres camps de concentration. Donc un des plus grands criminels de guerre qui a été mis en poste après juillet 1944 parce que le chef militaire du poste avait fricoté tardivement avec le projet de l'os, c'est-à-dire participer à la tarte à la crème de l'attentat contre Hitler de juillet 1944. Donc c'est Karl Wolff qui était chef SS, qui avait mené toutes les opérations SS, martyrisé l'Italie, le nord de l'Italie, les Juifs, bien sûr, responsables, mais enfin, il avait fait ça avant l'Italie, hein, puisque pour en avoir 300 000, il était passé par l'Est. Hein. Et donc, Karl Wolff et Kesselring négocient avec lui. Karl Wolff se fait, ne parlons pas de Kesselring qui risquait rien, sachant qu'on a maintenant 15 ans d'études allemandes qui permettent d'établir qu'il n'y avait pas de différence, d'abord sur le front oriental, puis sur le front occidental, officiellement depuis début 1944, pratiquement depuis 1943, qu'il n'y avait aucune différence entre la Wehrmacht et l'ASS dans la manière de conduire la guerre. Exactement comme ça s'était fait dans les Balkans et en Union soviétique, c'est-à-dire en Grèce, dans l'ensemble des Balkans, en Pologne et en Union soviétique, depuis 1939 et 1941. Donc désormais, la guerre à l'Ouest était conduite de la même manière.
Ce qui veut dire, c'est très important, il ne s'agit pas de gagner la guerre, il s'agit d'éliminer l'adversaire,
voilà.
D'éradiquer l'adversaire.
Voilà.
C'est ça.
Et il s'agit de ne pas être encombré de cette fâcheuse zone d'influence soviétique que le milliardaire américain et ambassadeur américain de 1943-1944 à Moscou, Avril Harriman, qui allait être futur ambassadeur itinérant du plan Marshall, avait garanti, puisqu'il avait envoyé en février 1944, c'était un peu trompé là sur ce coup, mais il avait envoyé au département d'État, et donc transmis immédiatement à Roosevelt, la nouvelle que l'Union soviétique était dans un tel état d'appauvrissement qu'il suffirait de lui promettre un petit peu de crédit pour qu'elle renonçât au contrôle d'une zone d'influence. Bon, là, il s'est un peu trompé, parce que sur ce coup...
Mais c'était le souhait.
Ah, mais c'était... Voilà, c'était... Non seulement c'était le souhait, mais il pensait, en 1944, que l'URSS était assez ruinée pour obtenir ça d'elle. Elle a fait l'effort militaire nécessaire pour se l'assurer, la zone de sécurité. Hein? Il pensait qu'elle lâcherait même ça. Et donc, je reviens à mes moutons. De février à avril, eh ben ma foi, les armées allemandes restent bien tranquillement et pas l'arme au pied pour pouvoir faire la transition. Exactement comme ça s'est fait à l'été précédent en Grèce, entre, pour obtenir la passation entre d'une part les Allemands et d'autre part les troupes anglaises. Et Anglais et Américains sont impliqués là-dedans. Hein. C'est Deleuze qui mène toute la négociation. Parce que même les Anglais habitués au rôle de pauvres seconds, les Anglais en fait sont évacués de la négociation. C'est Deleuze qui conduit toutes les négociations. Et donc, accord est passé en mars-avril, définitivement mars-avril 1945, et les Allemands défendent comme des beaux diables la zone qui pourra être ensuite officiellement attribuée à l'Italie. Ça a été considéré très tôt comme le premier acte de guerre froide, je dirais de guerre froide de post-Seconde Guerre mondiale, parce que tous les historiens sérieux, révisionnistes américains, marxistes américains, à l'exemple de William Appleman Williams, avaient montré que la guerre froide, elle remontait à 1917, hein, et qu'elle n'avait jamais connu la moindre décélération. Et donc, on se retrouve avec Kesselring, bien sûr, mais enfin, Kesselring sauvé, ils ont tous été sauvés, les chefs de guerre. Tous étaient sauvés, hein. Même quand ils ont fait quelques années de prison, il n'y en a pas un qui est sorti au-delà de 1951, avec la pression express d'Adenauer qui passait son temps avec le Vatican à demander la sortie de tout ce beau monde, et l'a obtenu au plus tard en 1951. Et donc, on se retrouve avec une promesse de Deleuze qui a été entièrement tenue, c'est-à-dire l'engagement qu'il n'y aurait pas de soumission de Karl Wolff au moindre tribunal de guerre, et Karl Wolff intervient au procès de Nuremberg comme témoin de l'accusation. 300 000 juifs, c'est pas assez.
Témoin.
Voilà, témoin de l'accusation. Et il a été soustrait. À un moment, il a fait un petit peu de prison, mais pas trop. Il a fait une prison tellement attentive, où la garde a été tellement attentive que il a pu s'enfuir, bien sûr. Enfin, on entre ensuite. Je ne dirai pas ensuite. Il faut savoir que tout ça se mêle à ce que j'ai décrit et que Kigoni a remarquablement décrit dans un ouvrage en espagnol publié en Argentine de 2002, publié en anglais en 2003 et que Delga doit traduire ou a traduit, c'est-à-dire la mission, la filière Odessa, c'est-à-dire, et c'est une dimension que je n'ai pas évoquée et que Bauer ne connaissait pas, Tom Bauer, c'est-à-dire l'organisation, alors essentiellement préparée entre le Vatican depuis 1942, et les États-Unis depuis 1942-1943, c'est-à-dire depuis que les États-Unis ont des troupes sur le terrain pré-européen puis européen, c'est-à-dire le sauvetage, recyclage des criminels de guerre, soit soi-disant prisonniers de guerre, tous criminels de guerre, SS compris, et évidemment... C'est une donnée qui n'était pas connue en 81, puisque Tom Bauer, lui, a en quelque sorte juste étudié les réunions 42-45 des Anglais et des Américains, pas ce qui se passait sur le terrain, hein, leurs négociations pour mitonner une non-épuration. Et par conséquent, je dirais que tout y était. Et ça vous explique que dès que les Américains arrivent sur place, non seulement bien sûr, ils ne coffrent pas les politiques, les industriels, les juges, ils commencent à badigeonner tout le monde en résistant, parce que une des plus grosses rigolades, j'en ai fait un article dans Guerre mondiale, conflit contemporain, qui est sorti en 2003, c'est la non-épuration du clergé, qui est à mourir de rire, parce qu'on les a en plus transformés en résistants. C'est comme 44 d'ailleurs, hein, résistants. Bon. Et donc, on se retrouve en 1945 avec une non-épuration, je dirais, radicale. Et bien entendu, alors, me direz-vous, il y a une autre dimension. Comment ils ont fait aussi pour, d'abord, pour recruter du bon personnel, c'est comme ça qu'ils recrutent Gaylon.
Pour la CIA.
Qui est devenu le chef des services secrets ouest-allemands, d'abord sous gestion américaine, puis chez Adenauer, hein, puisqu'il est resté jusqu'à sa retraite en 68. C'était un des chefs de guerre du front de l'Est, puisqu'il avait organisé toute la collaboration russe contre l'Union soviétique en Russie, et qu'il avait été un des bourreaux de l'Union soviétique, et qui s'est baladé, on nous a expliqué qu'on l'avait sauvé à cause de l'intérêt de sa petite valise de documents. Tu parles, Gaylon, de toute façon, n'a donné que des renseignements pourris, ou beaucoup de renseignements pourris, ce qui a été avoué dans les années ultérieures. Et tout est pareil, et Barbie, et tout le monde, quand je dis criminel de guerre, c'est des criminels, c'est des auteurs de crimes définis par les Américains eux-mêmes, crimes contre l'humanité. Criminel, en toute conscience, je le répète, on avait des fiches sur tout. La personne qui va, je ne dirais que dans les archives du Quai d'Orsay, elle peut le vérifier. Donc beaucoup de dossiers étaient accessibles, je le répète, depuis la deuxième moitié des années 1970. On veut. Qu'est-ce que c'est que le maintien du statu quo ? C'est le maintien du statu quo.
Et ce qui est intéressant au propos du tribunal de Nuremberg, tout à l'heure tu disais quelle a été sa fonction, ce qui est intéressant aussi, il me semble, c'est qu'on en fait un modèle.
Bien sûr,
on a fait ce tribunal de Nuremberg, et maintenant on s'y réfère comme la vérité.
Mais tu sais quoi, c'est exactement comme le plan Marshall. À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'affreux, il faut faire un plan Marshall.
Bon,
le plan Marshall, il est bien connu depuis des décennies. On a fait un colloque international en 91, il a tout dit. D'ailleurs, je le rappelle dans une mise au point là, que je prépare pour une des tribunes délirantes d'un certain nombre de collègues, éminents historiens européens, qui nous expliquent que tout va bien, que De Villiers raconte n'importe quoi et qu'Alstein était tout à fait qualifié pour diriger la Commission européenne. Ben, je veux bien qu'ils trouvent qu'Alstein était qualifié, mais Alstein était un des 99,99% de magistrats allemands auxquels on n'a pas infligé la moindre peine, et c'est un nazi jusqu'à l'os. Mais comme disent les collègues, c'est pas grave, parce que finalement, alors là je dois dire que dans une deuxième tribune, là, la quintessence des historiens, des éminents historiens américains, c'est-à-dire le couple Robert Frank-Gérard Bossuat, donne dans le grandiose. Quand même, les documents produits par De Villiers et que moi j'avais évoqué dans un article récent, c'est-à-dire la notice biographique de Klee, K-L-2-E, il y a un très très bon bouquin qui est un dictionnaire. Un goussou, ça s'appelle Westwehr, hein, qui est qui a été publié dans les années 90, je crois, sur qui était qui en 45 et après, enfin en 33 et après, et après-guerre. Et il y a une fiche Alstein, une grosse fiche Alstein, très documentée par un très bon historien, spécialiste des milieux universitaires, et qui a établi qui était Alstein. Et alors la notice, d'ailleurs astucieusement de Villiers l'a reprise, il y a une notice avec tous les titres d'Alstein. Bon, alors, il ne s'est pas cassé la tête, Villiers, hein, il a repris ça. Et alors, dans une première tribune, ils ont râlé comme des poux. Et dans une deuxième tribune, ils ont quand même là reculé. Ils ont baissé pavillon. Parce qu'ils expliquent, je crois que Villiers disait que finalement, alors il avait été nommé officier pour l'enseignement du nazisme. Non, dit-il. Il a été nommé comme officier national-socialiste dans la Wehrmacht. Donc, disent-ils, oui, on ne vous dit pas que ce soit un résistant. Ben non, officier national-socialiste. C'est que, officiellement, la Wehrmacht n'est pas national-socialiste en plus. Hein ? Ben non. Mais enfin, disent-ils indignés, là, les deux. Mais ça ne le disqualifie pas pour occuper la présidence de la Commission européenne. Ah bon ? Eh bien, très bien, alors. Merci, CQFD, hein, merci de nous le prouver. Hein.
Merci beaucoup, Annie Latroirie. Merci.